France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis 2023, 35 homicides ont été recensés en Corse, faisant de cette île la région la plus criminogène de France. Au-delà de ces assassinats, les actes de violence sont légion, explosions, incendies de bateaux, intimidation contre des entreprises qui refuseraient de verser de l'argent à un clan mafieux, règlement de compte. Aujourd'hui et depuis les années 80, les bandes criminelles sont solidement implantées dans la vie locale et ont mis en coupe réglée l'ensemble de l'île. La brise de mer, le petit bar, le clan de Jean-Jérôme Colonna. Les clans mafieux ont infiltré la société et ses institutions, désormais sous l'emprise du crime organisé. Alors peut-on parler de mafia lorsqu'on parle de banditisme corse? Deux invités pour en débattre ce soir. Jacques Folloroux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Votre ouvrage paraît aujourd'hui. Il est intitulé Corse, mafia et anti-mafia. La guerre est déclarée. C'est aux éditions Robert Laffont. Face à vous, Jean-François Guéraud, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes commissaire général de la police nationale. Vous vous exprimez, je le précise, en qualité d'auteur d'ouvrages sur la sociologie du crime. J'en cite deux notamment. Le premier, Les sociétés du silence, l'invisibilité du crime organisé, qui est apparu en 2025 aux éditions Fayard. Le second, La mafia et la maison blanche, c'était en 2023 aux éditions Plomb. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et c'est avec vous, Jacques Folloroux, que je commence en citant votre livre. Notamment, vous écrivez « Au nom de la solidarité familiale ou de village, ils trouvent, vous parlez des bandits, des caches chez des gens insoupçonnables. Ils sont informés sur leurs ennemis et les menaces qui les entourent. Ils ont transformé la Corse en sanctuaire. » D'où l'appel des collectifs à rompre le silence et à sortir de ce huis clos mortifère en criant haut et fort le mot qui fait tâche. Mafia, pourquoi ce mot fait-il tâche en Corse ?
Il a été difficile à accepter, je pense, par la société corse, pas simplement par l'État, parce que inévitablement, ça renvoie à une image très dégradée de ce qu'est devenu cette île. Ça ne réduit pas cette île simplement à ce phénomène de violence organisée, mais le mot mafia me semble important, parce que, comme ça a été dit, pour bien agir, il faut bien penser. Et que, comme vous l'avez dit en rappelant quelques mots, c'est-à-dire que ce phénomène, cette violence organisée, elle est mafieuse. C'est-à-dire que je pourrais le reprendre autrement en disant, on n'a pas affaire qu'à des voyous. Un voyou devient mafieux quand tout d'un coup il sort de son giron, de sa sphère naturelle et qu'il pèse sur la société qui l'entoure. Quand il pèse sur la démocratie, quand il pèse sur l'élection d'un maire, quand il pèse sur l'achat d'un commerce, quand il pèse sur l'organisation de la société.
Quand il a une influence sur la société.
C'est ça, c'est son emprise. Et le propre, je pense, vraiment de cette mafia corse, à la différence d'autres mafias, parce que chaque mafia est différente. Le mot mafia ne définit pas un mode d'organisation, il définit un phénomène de violence organisée. Ensuite, sa structuration interne varie selon les pays, la géographie, l'histoire, le rapport à l'État, etc. Et donc la mafia corse, sa grande spécificité, je pense même sa force, c'est c'est son emprise sociale. Avant même l'exercice de la violence, qui existe ailleurs, mais sa force, c'est son emprise, son incrustation dans une société qui a un périmètre étroit. C'est 360 000 personnes, c'est très peu. Et de ce fait, la pression sur chaque individu, elle est extrêmement puissante.
Pourquoi vous êtes fondamentalement mal à l'aise, Jean-François Guéraud, avec ce terme de mafia pour caractériser le banditisme corse en particulier?
Le mot mafia a une histoire. Et il me semble toujours très important de bien décrire le réel. Ce dont on a besoin, c'est d'un diagnostic clair.
Vous êtes d'accord là-dessus, hein ? Il faut bien décrire le réel.
On est entièrement d'accord de ce point de vue-là. Mais, on apprend ça en philosophie, les mots précèdent les choses. Et si on veut avoir un diagnostic éclairé, il faut absolument apposer un bon concept sur la réalité pour la faire émerger. Le mot mafia a une histoire, il faut revenir rapidement là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. C'est un mot qui est situé historiquement et géographiquement, qui a servi à définir une organisation criminelle au XIXe siècle, c'est Cosa Nostra, à partir du XIXe siècle, en Sicile. C'est donc un nom propre. Et par la suite, assez tardivement, à partir des années 60, à la fois en Italie et surtout aux États-Unis, grâce aux révélations des repentis, on s'est rendu compte que ce nom propre était un nom impropre, puisque les mafieux eux-mêmes utilisaient un autre mot, c'est Cosa Nostra, notre chose à nous. Et les repentis ont dit, vous savez, le mot mafia, c'est un mot pour les journalistes, c'est un mot pour la police, c'est un mot pour le grand public, mais nous, on ne l'utilise pas. Et ce mot a encore évolué par la suite. Il s'est popularisé, il s'est même mondialisé, il s'est démocratisé. Il est devenu aujourd'hui, dans la langue politique et journalistique, un synonyme de criminalité organisée. Et on va même encore plus loin. Aujourd'hui, le mot mafia est utilisé comme synonyme du mot association. On parle de la mafia des hormones ou de la mafia de l'agroalimentaire. Donc en réalité, aujourd'hui, il y a une hyper-extension du concept qui est appliquée à toutes les formes de criminalité organisée, alors même qu'il y a, me semble-t-il, et on pourrait revenir, une singularité sociologique des organisations que l'on doit qualifier de mafia.
On va revenir sur cette distinction. Une autre d'abord que je voudrais vous faire préciser, quel schisme vous opérez justement entre d'un côté la mafia, de l'autre la criminalité organisée ?
Ce qui caractérise une mafia, mais on peut avoir une autre définition et je comprends le point de vue de Jacques Follero.
On laissera Jacques Follero répondre évidemment.
Je comprends tout à fait son point de vue. À partir de l'expérience italienne et américaine, et donc de l'expérience des opérations judiciaires, des enquêtes judiciaires et de la sociologie italienne, une mafia, ça n'est pas du banditisme, c'est fondamentalement une sociologie de société secrète. Voilà, on est à France Culture, vous avez des auditeurs cultivés, hein, c'est la sociologie de York Simmel. Toutes les sociétés secrètes ne sont pas des organisations criminelles ou des mafias, mais certaines organisations criminelles ont une sociologie de société secrète, et on va définir ce qu'est une société secrète. Et celles-là, on peut les appeler mafias. Et il y en a très peu à travers le monde.
Il n'y a pas, Jacques Follero, de société secrète telle que les raconte, telle que les décrit Jean-François Guéraud. Encore, c'est une autre forme de mafia où vous expliquez justement qu'il y a des liens qu'on peut opérer, des liens de comparaison avec Cosa Nostra.
Il y a des liens de comparaison, mais en effet, il n'y a pas eu cette structuration initiale, historique, par les sociétés secrètes. Mais je pense qu'il ne faut pas être tributaire de cette histoire. Je pense que là, si on veut vraiment être efficace en termes d'action publique et nourrir le débat public utile, il faut se rester, en effet, il faut bien serrer les problèmes. Mais je pense qu'il faut bien préciser quelle est la nature de cette emprise violente sur une société. Là, je parle de la Corse, sur un territoire. Et que le mot mafia, c'est pas un concept qui est appliqué sur une réalité, en l'occurrence. Moi, j'ai commencé à utiliser ce mot-là à la suite d'un travail journalistique très approfondi en 2004, à la suite d'un premier ouvrage, où tout d'un coup, à la faveur d'un livre, hein, vous rassemblez énormément d'informations, m'est apparu assez clairement qu'on n'avait pas affaire à des voyous issus d'une génération spontanée, qu'on avait affaire à des gens qui s'inscrivaient dans une histoire, qu'ils avaient une vision finalement quasi politique de leur rapport à leur environnement. Et puis ensuite, 2019, du temps est passé pour que ça fasse son chemin dans les esprits, et c'est pas simplement lié à mon travail, bien entendu. Les collectifs, les deux collectifs qui sont nés pour répondre à cette violence-là, ce sont eux-mêmes dénommés collectifs anti-mafia. Et donc, si vous voulez, ce collectif anti, ce terme de mafia, pour moi, en Corse, je vais vraiment m'appliquer à essayer d'apporter des éléments pour définir la mafia corse.
Racontez-nous justement, j'allais dire très précisément, l'influence dont vous parliez un peu plus tôt. Quelle est l'influence de ces groupes la société corse ? Vous parlez même de mentalité insulaire liée à la mafia.
Non, pardonnez-moi, j'ai du mal.
C'est ce que vous écrivez. Hein. Ouais, la mafia est d'autant plus enracinée dans les mentées insulaires, écrivez-vous.
Oui, non, c'est-à-dire que je pense que ça n'est pas l'insularité, ni l'identité, ni la culture corse qui fait la mafia. Je pense qu'en revanche que des systèmes criminels, que des bandes criminelles, etc., qui se sont installées en Corse à partir du début des années 80, ont instrumentalisé, à leur profit, la notion d'insularité, la notion d'identité, la notion de corsitude, etc. Ça, oui. Mais alors, pour vous donner très concrètement l'exemple, comment est-ce que ce milieu pèse sur la société civile ? Ce sont des choses toutes simples. Par exemple, ils vont pendant des années, par exemple, prenons Ajaccio, vous aviez le petit bar qui organisait, par exemple, les soirées qui pouvaient être organisées ou pas.
Le petit bar qui est plus qu'un bar, hein, qui est un clan mafieux. Pour
le petit bar qui est le nom d'une bande mafieuse, hein, qui ont été les héritiers du parrain Jean G. Colonna, qui a régné sur la Corse du Sud pendant plus de 20 ans. Donc le petit bar à son apogée disait quel établissement ou pas pouvait organiser une soirée. Juste le fait d'organiser une soirée dans un bar, C'était les voyous qui organisaient ça. Mais après, je vais pas vous lister tous les moyens d'agir, finalement, de peser sur leur environnement, mais ça va jusqu'à la désignation, ensuite, d'élus, c'est aussi la mainmise sur les marchés publics, c'est la mainmise aussi sur la distribution du café, etc.
Institutions, marchés publics, produits de première nécessité, influence aussi sur qui peut ou non organiser des soirées dans un bar. Jean-François Guéraud, on n'est pas là dans des pratiques typiquement mafieuses?
Oui, alors pour répondre à Jacques Fulroux, je ferai deux remarques. Premièrement, l'émergence du concept de mafia en Corse a une utilité. C'est celui de l'éveil des consciences. Faire que à la fois la société et l'État prennent conscience du fait qu'il y a un très grave problème de criminalité organisée en Corse, mais qui remonte au XVIIIe siècle. Quand on a cette profondeur historique, on est frappé. Au XIXe siècle, l'État français envoie l'armée, il y a des commissions d'enquête, il y a tout un débat public très vif, etc.
Jacques Foulon nous dit qu'il faut se détacher de cette histoire.
Il y a une profondeur historique qui est intéressante. On peut discuter de la singularité aujourd'hui du moment historique, mais déjà, par exemple, sous l'administration de Pascal Paoli au milieu du XVIIIe siècle, c'est déjà un énorme sujet du débat public. C'est un sujet durant tout le XIXe siècle, et même dans l'entre-deux-guerres, on voit à un moment donné, on voit utiliser déjà le concept de mafia pour qualifier la criminalité organisée en Corse. C'est intéressant, au moment même où le mot mafia est entré dans le débat public en Sicile depuis 60-70 ans. Donc c'est intéressant. Donc le mot mafia est utile pour éveiller les consciences, ça je ne le dis pas. Deuxième remarque, et c'est là où je vous rejoins Jacques Fulroux, c'est vrai que si on ne peut pas parler de mafia au sens sociologique, il y a des pratiques mafieuses, c'est-à-dire qu'il y a quand même des points de correspondance avec ce que l'on voit en Italie dans le Mezzogiorno, en particulier dans le contrôle territorial.
Dans l'Italie du Sud.
Ouais, dans l'Italie du Sud. Donc, dans le contrôle territorial, c'est évident. Deuxièmement, dans le rapport aux politiques, dans la capacité à être dans la contiguïté, voire dans la corruption du monde politique. Et ça, c'est un phénomène qu'on rencontre dans l'histoire du banditisme corse déjà au XIXe siècle. Dans la capacité à distiller de la peur, le point de comparaison que font souvent les Italiens et les Corses entre eux, c'est que les territoires de pratiques mafieuses ou de mafia sont des territoires de la peur et du silence, où on devient sourd et muet. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances qui sont intéressantes.
Jacques Fulroux a soulevé par ailleurs un point important. Il peut y avoir une utilité à parler de mafia du point de vue de la lutte contre ces mafias et donc du point de vue de l'État pour justement agir contre elles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point?
Oui, mais alors l'idée qu'on puisse utiliser le mot mafia, c'était déjà apparu dans un rapport qu'on a peut-être un petit peu oublié, pas Jacques Fulroux qui connaît ça par cœur, mais c'est le rapport du député PS Jean Glavany en 1998 sur l'utilisation des fonds publics en Corse. Et déjà dans ce très gros rapport, qui fait plus de 600 pages, qui est très intéressant à lire, il est question de pratiques pré-mafieuses. Donc c'est déjà quelque chose qui est dans les esprits. On a quelques années plus tard, deux ans après, le rapport non publié du procureur Bernard Legras, qui déjà pose la question. Donc oui, il y a une utilité à éveiller les consciences, mais méfions-nous d'utiliser un concept qui peut peut-être soit grossir à l'extrême la situation en faisant peur aux populations. Parce que quel est le non-dit derrière le concept de mafia? C'est ce qui se passe en Italie ou aux États-Unis avec Cosa Nostra. C'est que ce sont des réalités criminelles indéracinables. Vous voyez, donc ça instille quand même implicitement dans les populations l'idée selon laquelle il faut vivre avec.
La voix de l'ex-préfet de Corse, Jérôme Filippini, lors de la manifestation du 8 mars 2025, lui évoque clairement le terme de mafia.
La mafia, il faut l'appeler comme telle. On a tous, moi y compris depuis 4 mois, tourné autour du pot. Il faut arrêter de tourner autour du pot. La mafia... Pas simplement quelques personnes qui font leurs petites affaires. La mafia, c'est une ou plusieurs organisations qui veulent prendre le pouvoir. Et dans une démocratie, le pouvoir ne doit pas appartenir aux criminels. Il doit appartenir aux institutions légitimement désignées par le peuple, c'est-à-dire aux élus désignés par la volonté populaire. D'accord. Et l'État, nous pouvons triompher de la mafia.
Il est important, Jacques Fulroux, ce moment corse, ce qu'il dit justement du rapport entre l'État français d'un côté et ses groupes de banditisme de l'autre. Pourquoi l'État français a-t-il mis tant de temps à parler de mafia? Pourquoi le concept a pris tant de temps à émerger?
Alors je pense déjà qu'il y a une forme de désintérêt aussi de Paris, hein. C'est-à-dire que la Corse c'est 360 000 habitants sur un pays de aujourd'hui 70 millions de personnes, c'est pas une priorité. Et tant que il n'y avait pas de troubles à l'ordre public majeur, Paris a toujours considéré qu'il avait d'autres chats à fouetter.
Depuis 1998, depuis qu'un préfet français s'est fait assassiner.
Mais même avant,
quand même.
Oui, alors il ne s'est mobilisé, c'est ce que j'allais vous dire, il ne s'est mobilisé que quand il y a eu tout d'un coup une atteinte flagrante, très spectaculaire à son autorité et en tout cas à l'image de son autorité. Quand on lui a tué un préfet. En effet, l'État s'est mobilisé. Donc je pense qu'il y a ça. Mais après, je pense que fondamentalement, ça touche à finalement au cœur du problème et la raison d'ailleurs pour laquelle on est ici. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup que les esprits, et notamment en France, on puisse accepter l'idée qu'il y a un bout de l'autorité, enfin qu'il y a un bout du territoire qui est soustrait à l'autorité de l'État. Que l'État, et ça nous ramène à ce que c'est l'État en France, qui a créé la France. Est-ce que c'est l'État qui a créé la France ou la France qui a créé l'État?
C'est l'État qui a créé la nation.
Oui.
C'est la singularité française.
C'est ça. Et donc, je pense qu'il y a une incapacité fondamentale des acteurs de l'État depuis des décennies à considérer qu'il puisse y avoir, en effet, sur un bout de son territoire, une forme de pouvoir concurrent, et qui soit plus légitime que lui et davantage respecté et davantage craint, ce qui est le cas aujourd'hui. Et toute la reconquête, c'est pour ça que le mot mafia est important, c'est-à-dire qu'il permet de reconquérir les esprits. Et que là, aujourd'hui, l'emprise de la mafia, sa force, c'est pas tant le fait d'avoir des armes, c'est le fait d'avoir conquis les esprits et d'avoir conquis une grande majorité des Corses, que le pouvoir, il était entre leurs mains. Et l'assassinat d'Alain Orsoni, l'ancien dirigeant nationaliste, à l'enterrement de sa mère, a rappelé à l'ensemble de la société, après 2025, qui a vu émerger la société civile via des manifestations, via les élus, via nationaux, via le vote d'une loi narco qui était importante, parce que ça se décline aussi sur la lutte contre le crime organisé en Corse, et le réveil de l'État via la création de nouvelles institutions, l'assassinat début janvier d'un poids lourd de l'histoire politique,
un pilier du nationalisme
corse, à l'enterrement de sa mère, a envoyé un message clair à tout le monde en disant, en fait, d'accord, on peut parler autant qu'on veut, le pouvoir il reste entre les mains des voyous.
Et dans le même temps, Jean-François Guéraud, est-ce que l'État, durant des années, durant des décennies même, n'a pas regardé ailleurs? Et ailleurs, j'entends, n'a pas regardé en particulier l'activisme politique indépendantiste, parfois terroriste, corse, bien plus que justement ces groupes mafieux, ce banditisme qui œuvrait parfois en parallèle, parfois à côté.
Vous avez entièrement raison, il y a eu, ce que j'ai décrit dans d'autres livres, un effet de diversion. Vous savez, l'État... En toute bonne foi, c'était vrai en France, c'était vrai en Italie pendant les années de plomb, c'était vrai aux États-Unis après le 11 septembre 2001. L'État a souvent beaucoup de mal à gérer en même temps plusieurs grandes menaces.
Le FLNC plutôt que la brise de mer, si je caricature.
Et c'est un peu ce qui s'est produit en réalité. Voilà, un petit effet de diversion qui s'explique tout simplement par des raisons capacitaires et matérielles. Il y a évidemment en Corse, c'est une histoire plus complexe, plus trouble que Jacques Folleroux a très bien décrit dans ses livres. Il y a eu, sous la 4e, mais aussi surtout sous la 5e République, des collusions intéressées entre certains très grands voyous, on peut penser à ceux de la Brise de Mer, et certains segments de la classe politique nationale française, ou parfois des hauts fonctionnaires, parce que certains voyous ont été présumés être utiles à... Bon, voilà. Ça, c'est une histoire plus complexe. Voilà. Donc, c'est vrai. Mais cet effet de diversion, c'est pas un phénomène qui était propre à la Corse. On l'a connu un petit peu de manière plus générale en Occident.
Jacques Folleroux.
Si, c'est important ce point. Parce que c'est vrai qu'on... En tout cas, journalistiquement parlant, on l'a pas assez travaillé.
Il faut l'expliciter. Hein. D'ailleurs, oui, pourquoi on regarde plus le terrorisme corse? Parce qu'il est plus effrayant, parce qu'il est plus menaçant.
Je pense qu'il y a
que le banditisme.
Ça nous ramène à ce qu'on a dit juste avant, quand on a cité Irignac, c'est-à-dire qu'en effet, que l'État, que Paris, va réagir.
Donc, son préfet assassiné en 1998.
Absolument, va réagir quand finalement les symboles de son autorité sont mis en cause. C'est là qu'il va intervenir. C'est la cave d'Aléria en 75. C'est évidemment Irignac en 98. Donc en effet, sa réaction, elle va être sur des finalement sur les effets d'image, davantage que sur les problèmes de fond. Mais il y a un point qui a été... Il y a ce phénomène de diversion, mais je dirais que ça touche aussi à la façon dont l'État mène ses affaires. et finalement défend ses intérêts. Et ça, il y aurait un autre terme que j'aurais envie d'employer, ce serait celui de délégation. C'est-à-dire que l'État, dans son histoire, en France, a pu se servir des voyous pour servir des intérêts sur des... Et c'est la partie un peu inavouable de son action. Et si vous voulez, sur le cas des
Corses marseillais... L'État veut dire à déléguer certaines actions sur le territoire corse.
Ça va très... Non, en France même. Prenons l'exemple très, très, très concret. Remontons à la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation, vous aviez je reviens sur mon système corso-marseillais, vous en aviez du côté de l'occupant et du côté des résistants. Donc là, vous avez les corso-marseillais qui rentrent, qui sont co-acteurs à côté de l'État, qui pèsent aussi sur le cours de l'histoire de la France. Ensuite, vous les avez après-guerre, lors de la lutte contre le communisme pendant la guerre froide. Il y a des corso-marseillais qui vont, armes à la main, s'associer à la CIA et à une partie de l'État pour reprendre le contrôle du port de Marseille, etc. Vous les avez aussi dans les années 60-70 pour lutter contre les gauchistes. Les gens doivent se souvenir peut-être, les plus anciens, du SAC, hein, qui était le SAC de Charles Pasqua, etc., où là, Charles Pasqua s'appuyait sur une milice gaulliste au sein de laquelle il y avait un grand nombre de corsos marseillais, et ça nous ramène à la période plus contemporaine qui a été citée par M. Guéraud, c'est-à-dire, en effet, lors de la lutte contre les indépendantistes, les nationalistes, la police française, et là, ça nous amène dans les années 90, c'est pas, il n'y a pas si longtemps, la police administrative, ce qu'on appelait les RG à l'époque, comme la PJ, se sont appuyés sur les voyous corses pour démanteler des cellules clandestines nationalistes. Donc, ce rapport, ça fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez un voyou corse aujourd'hui, il n'a pas une vision frontale à l'État. L'État, c'est un acteur parmi d'autres avec qui on peut discuter, qu'on peut contourner, qu'on peut éventuellement corrompre, en tout cas, avec qui on peut discuter.
Vous souhaitiez réagir, Jean-François Guéraud, sur les risques relatifs entre, d'un côté, les nationalistes corses et le banditisme corse.
Oui, sur les faits de diversion, pourquoi est-ce que les États, en toute bonne foi, c'était le cas, je le dis, en Italie dans les années 70-80, en France, en Corse, ou bien aux États-Unis après le 11 septembre, traitent en priorité la matière terroriste et placent au second rang la matière criminelle? C'est pourquoi? Parce que le terrorisme crée un trouble à l'ordre public immédiat, et parfois met en danger même la survie de l'État. Et, parallèlement, ce qui caractérise toujours les phénomènes de grande criminalité, qu'ils soient mafieux ou non mafieux, c'est que ce sont des phénomènes très largement invisibles. C'est l'univers du silence. C'est-à-dire que tant qu'on ne les cherche pas, on ne les voit pas, on ne les comprend pas. On est dans des univers souvent très invisibles, très complexes. Pensez à ce que sont des très grandes escroqueries, des phénomènes de blanchiment d'argent, etc., etc. Donc, vous avez l'hyper-bruit, l'hyper-visibilité du terrorisme, et vous avez le monde du secret et du silence pour la criminalité organisée. Et c'est un problème historique et structurel dans la lutte contre le crime, c'est ce que je décris dans mon dernier livre. C'est qu'en réalité, les États, assez naturellement, sont dans des logiques un peu routinières dans la lutte contre le crime organisé, justement quand les acteurs sont suffisamment matures pour ne pas faire de bruit.
Je voudrais qu'on revienne, Jacques Folleroux, sur la structuration, sur l'architecture même de ce banditisme corse. On lit, on apprend, en se renseignant sur le sujet, que cette mafia corse, pour reprendre votre expression, est parfois plus clanique, plus horizontale que le modèle typique de la Cosa Nostra, justement. Est-ce que, de ce point de vue-là, du point de vue de la comparaison, cela ne sort-il pas, ce banditisme corse, de la catégorie mafieuse?
Si, si. Alors bon, encore une fois, le mot mafia ne définit pas la structuration interne.
Mais vous souhaitiez la décrire, cette structuration?
Oui, absolument. C'est-à-dire que la forme pyramidale, elle existe en effet au sein de Cosa Nostra, mais elle n'existe pas au sein de la Camorra ni de la Ndrangheta, et on est en Italie. En tout cas, ça n'est pas la même pyramide qu'en Sicile. Pour revenir, pardon.
François Guéraud n'est pas d'accord, mais je vous donnerai la parole.
Pour revenir à la Corse, en effet, c'est la cohabitation de systèmes criminels qui vont. Il peut exister une espèce de pax mafiosa si leurs intérêts sont convergent, en tout cas sont s'équilibrent, mais à un moment donné, ces relations peuvent devenir très conflictuelles. Et il y a une petite touche au sein du milieu corse assez spécifique, c'est l'emprise des vendettas. Les vendettas viennent redéfinir les contours des alliances, etc.
Mais si ça, c'est typiquement corse.
Il y a beaucoup plus de questions de vendetta, de famille. Donc, c'est un mélange entre du clanisme, de la famille, des liens amicaux et des alliances de circonstances. C'est pour ça qu'en permanence, d'ailleurs, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on parle de crime organisé corse, mais c'est un crime organisé qui est presque informel. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de... C'est une religion sans église, un État sans institution. Je voudrais juste très, très rapidement revenir sur le point d'avant, parce que ça me semble important. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux, quand on parle d'État, je pense qu'il y a deux niveaux. Moi, je distingue deux niveaux. Vous avez l'échelon politique et vous avez les acteurs au sein des services de l'État, judiciaires et policiers. On a parlé de l'espèce de focus qui a été fait par l'État sur la violence nationaliste au détriment de la lutte contre le crime organisé. Mais le paradoxe, c'est que au milieu des années 80, alors que la brise de mer commence à prendre de l'ampleur, c'était ce gang dominant sur toute la Haute-Corse, mais qu'en fait qui rayonnait dans le monde entier, vous avez eu à un moment donné une priorité donnée par l'État. À l'époque, c'est François Mitterrand qui était à la tête de l'État et qui envoie Robert Broussard, un ancien grand flic, et le nomme préfet chargé de remettre de l'ordre face à la violence nationaliste. Mais Robert Broussard, avec ses hommes, avec ses proches, patron de la PJ, patron des RG, etc., il voit bien assez rapidement, c'est leur métier, que la brise de mer constitue un vrai danger et également un trouble à l'ordre public et une atteinte à l'autorité de l'État. Il va y avoir une proposition qui va être faite, de lier les enquêtes criminelles aux enquêtes financières. Et à l'époque, le garde des Sceaux de l'époque, qui est Robert Badinter, il va rejeter ça d'un revers de la main en 84, considérant que Robert Broussard est un cow-boy. Et il faudra attendre 2 ans pour que, en effet, la jonction du criminel et du financier se fasse, mais ce sera trop tard.
Je reviens vers vous, Jean-François Guéroux, vous étiez en train de prendre des notes. Vous ne sembliez pas d'accord sur la structuration, la spécificité de la structuration de ces groupes du banditisme corse.
Alors, en Italie, ce sont des structures pyramidales. C'est vrai en Cosa Nostra. À Cosa Nostra, en Sicile, c'est le modèle pur et parfait. C'est vrai pour la 'Ndrangheta. C'est quelque chose qui a été découvert tardivement. Et c'est même vrai pour la Camorra. Donc, ce sont de vraies structures pyramidales, très hiérarchisées, très, très normées. La grande différence entre les organisations criminelles mafieuses italiennes et ce qui se passe en Corse, c'est qu'en Italie, les clans ont une durée, une temporalité, une longévité. Vous regardez la cartographie des clans criminels de Cosa Nostra en Sicile, elle est identique depuis un siècle et demi. Ce sont des bandes structurelles. Vous avez un clan à Palerme, X clan, hein, par exemple dans le quartier de la Cala, qui est le quartier historique qu'on visite tous quand on va à Palerme, ce clan existe depuis un siècle et demi.
En Corse, ça disparaît, ça ressurgit.
En Corse, on a affaire, si j'en crois, et je les crois évidemment, et je suis certain que c'est exact, que mes collègues de la Direction nationale de la police judiciaire décrivent des bandes criminelles. Ce sont des bandes qui ont une vie éphémère. Jacques Folleroux parlait à juste titre de la bande de la Brise de Mer qui a dominé le banditisme corse pendant une grosse génération. Elle a eu un début, elle a eu une fin, et elle s'est...
De la fin des années 70 à peu près, durant un quart de siècle.
20-25 ans. Elle s'est en fait largement autodissoute de l'intérieur par des conflits, mais elle a eu un début, une fin. Au bout d'une génération, elle n'existe plus. Vous ne voyez absolument pas ça avec Cosa Nostra aux États-Unis, Cosa Nostra en Sicile. Donc ce sont des bandes, ce qui n'enlève rien à leur dangerosité. Vous voyez, le fait de dire qu'en Corse, on a affaire à du banditisme ou à du crime organisé et pas à des mafias, ça n'enlève rien à leur dangerosité. Vous prenez les cartels mexicains de la drogue, ce ne sont pas des mafias, et croyez-moi, ce sont des superpuissances criminelles mondialisées qui mettent en échec les États.
Trois voix de Corse que j'aimerais vous faire entendre. Et un combat les réunit, justement le combat anti-mafieux.
C'est triste d'en être arrivé là, parce qu'aujourd'hui, c'est l'appât du gain qui compte. C'est plus des valeurs, des principes, contrairement à ce qu'il y avait à l'époque. Et je pense que, enfin, moi, je parle pour ma génération, parce que je suis assez jeune. Et j'ai pas envie de grandir dans une Corse où on a peur de dire ce que l'on pense.
On va bien être, d'une certaine manière, obligé de remettre en cause la façon dont 12 ou 13 familles se sont emparées du pouvoir économique en Corse. Quand on va faire des propositions concrètes, je pense qu'on va, un euphémisme, chatouiller beaucoup de gens.
Ils ont fait quelque chose qui est irréversible. Ils auront à en payer les conséquences. Il y a des personnes qui n'accepteront pas que ces crapules s'emparent du territoire cargésien. Toute personne aujourd'hui en Corse qui lève la tête, qui lève les yeux, qui ouvre la bouche est susceptible d'être en danger. Mais de toute manière, je ne crois pas plus en danger que si je ne parlais pas.
Des propos recueillis par le média en ligne Brut, Jean-François Guéraud, en miroir de ce que vous venez l'un et l'autre de décrire, comment se structure le mouvement anti-mafieux en Corse ?
Écoutez, après une espèce de longue gestation, je pense, mais la réaction, comme un peu une espèce de réaction immunitaire d'un organe vivant, il apparaît en effet qu'en 2019, la création de ces deux collectifs anti-mafia, qui ont deux histoires distinctes, mais on leur promettait 6 mois d'existence et aujourd'hui ils sont toujours là. Alors c'est clair que cette parole-là, il a fallu du temps pour qu'elle se structure. Ce sont pas des gens qui venaient tous du même moule, mais cette parole, elle a perduré, elle existe encore. Et en effet, 2025 me semble être un tournant, c'est-à-dire que vous avez eu tout d'un coup l'expression d'une parole anti-mafia relativement globale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ces collectifs, la société civile qui manifeste dans la rue, avec comme seul et unique slogan l'anti-mafia, de dire...
Elle manifeste et elle peut le faire.
Elle peut le faire, à visage découvert, et ce sont des gens, alors certes en petit nombre par rapport à la population, mais qui dit ouvertement... C'est les Corses qui se parlent à eux-mêmes en disant « Regardez, nous avons... Regardez de quoi la Corse a enfanté, de monstres. Ce sont des Corses qui mettent à l'amende les autres Corses. » Et vous avez eu la même réaction des élus. Après, ils ont mis 6 ans à se décider à organiser une session spéciale sur l'emprise mafieuse, mais ils représentent les Corses. Donc leur parole, même si elle est symbolique, elle est forte. Et puis l'État. Donc 2025 vraiment cristallise cette espèce de d'éveil des consciences et son expression.
Parce que ça a été compliqué effectivement pour beaucoup d'élus, durant longtemps, de parler même de mafia. Je veux juste faire réagir Jean-François Guéraud. Point de vue italien, est-ce que ces mouvements de citoyens qui se structurent et qui structurent également un discours anti-mafia, cela permet d'être efficace dans la lutte contre Cosa Nostra et d'autres, hein.
Oui, alors la réaction de la société civile corse est un événement vraiment tout à fait extraordinaire, il faut le saluer, puisqu'en fait, comme en Italie, c'est une sortie de la peur, c'est une sortie du silence. Et en Italie, le mouvement anti-mafia a commencé donc dans la décennie 90, autour de l'idée d'un retour à la légalité, au civisme. Voilà, d'un réapprentissage de ce qu'est un état de droit.
Et qu'est-ce qui déclenche alors ces mouvements à l'origine? Qu'est-ce qui fait qu'on sort de la peur?
En Italie, c'est évidemment le choc des assassinats des magistrats Borsellino et puis Falcone, hein, surtout l'attentat de Capaci en 92. Il y a un avant et un après dans la psyché italienne. Bon. Malgré tout, il faut être très prudent quand on regarde les leçons de la lutte anti-mafia, enfin plus exactement de la réaction de la société civile en Italie. On voit 2 choses. Bon, tout d'abord, tous les acteurs sont en permanence en grand danger. On le voit par exemple avec Roberto Saviano qui est sous protection. Bon. Deuxièmement, en soi, ça ne suffit pas. Ce qui est utile et efficace pour lutter contre des grandes organisations criminelles, c'est une action continue, sans retour en arrière, une forte pression judiciaire est permanente. Et on voit en Italie, en tous les territoires où la pression judiciaire s'est un petit peu reculée, hop, ces organisations resurgissent. Et troisièmement, et là, l'exemple sicilien n'est pas très réconfortant, Cosa Nostra en Sicile arrive à très bien vivre avec le mouvement anti-mafia.
15 secondes.
Moi, je pense qu'en Corse, si la parole s'est libérée, c'est que ce système mafieux, qui est une mafia, et en fait, c'est un système totalitaire, et qui a fini par quasiment complètement étouffer cette île, ce bout de territoire, et que la population, elle a fini par dire non, et que c'est pas simplement l'addition des drames individuels, c'est aussi une prise de conscience collective. C'est pour ça que, à la différence de mon interlocuteur, je ne dirais pas, il ne faut pas parler de bande criminelle, mais bien d'un système mafieux.
Merci beaucoup, c'était passionnant d'entendre vos désaccords respectueux, Jacques Folloroux, Jean-François Guéraud. Merci également, un grand merci à celles et ceux qui ont pensé et fait cette émission, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral et Juliette Mouélic. À suivre après le journal, la guerre en Ukraine refaçonne-t-elle l'identité et la mémoire européenne?